c'est l'Africain. Ce sont ses aspirations, ses besoins. Et n'hésitons pas à le reconnaître, ses faiblesses. C'est l'Africain pris comme individu, aussi bien comme membre d'une cellule familiale ou villageoise, que comme élément d'une société appelée, ainsi que toutes les sociétés, à évoluer profondément sous l'effet de la technique et des idéologies contemporaines qui seront la préoccupation constante de cette conférence. C'est l'incorporation des masses indigènes dans le monde français, l'évolution de nos liens avec elles, du stade du dévouement instinctif d'un sergent Malamine au loyalisme nécessairement différent et plus nuancé de l'éduqué et du citoyen. C'est l'ascension des populations africaines vers la personnalité politique qui retiendront une partie très importante et peut-être la plus longue du temps de la conférence. En un mot, l'homme et la société humaine auront à Brazzaville la primauté.
Du Cameroun, on a décidé de parler du Cameroun, un pays d'Afrique équatoriale ouvrant sur l'Atlantique entre le Nigeria au nord, la Guinée équatoriale, le Gabon et la République du Congo au sud, enfin à l'est le Tchad et la République de Centrafrique. Voilà pour situer le Cameroun, 465 000 km², 9 880 000 habitants, découvert par les Portugais si on en croit les dictionnaires, comme si avant il n'y avait personne. Mais ne cherchez pas plus dans vos dictionnaires, vous n'en trouveriez pas grand-chose d'autre. Pourtant, le Cameroun illustre à merveille la déclaration précédente de René Pleven, de « La France, à partir de 1940, va chercher à passer d'un mode de domination par un autre et la fraternité éclairée eurafricaine devra remplacer la brutale colonisation ». Donc aujourd'hui, pour en parler, l'auteur, le co-auteur d'un livre qui s'appelle « Cameroun, une guerre cachée aux origines de la France-Afrique, 1948-1971 ». Donc un livre et un site, un livre écrit par trois auteurs, Jacob Tatsita, enseignant et doctorant en histoire à l'université de Yaoundé, Manuel Domergue, journaliste, et enfin Thomas Deltombe, journaliste indépendant, qui est avec nous aujourd'hui. Bonjour Thomas.
Bonjour. Donc, comment allez-vous?
Bah ça va, écoute. Donc tu as entendu cette petite introduction. Donc on avait commencé avec l'hymne camerounais qui a ces belles phrases. Ô Cameroun, berceau de nos ancêtres, autrefois tu vécus dans la barbarie, comme un soleil tu commences à paraître, peu à peu tu sors de ta sauvagerie. Ça illustre bien l'approche française de ce pays, me semble.
Absolument, c'est très intéressant parce que c'est donc l'hymne qui a été adopté au moment de l'indépendance, mais qui reprend en fait tous les clichés de la mission civilisatrice française, comme si finalement l'indépendance qui était entre guillemets offerte au Cameroun était la suite de la colonisation. Et c'est effectivement ce qu'on raconte dans le livre Cameroun que vous avez mentionné.
Quand est-ce qu'il est sorti ce livre? Quand est-ce qu'il a été publié?
Il est sorti au début de l'année 2011 en fait. L'indépendance du Cameroun, c'est 1960, 1er janvier 1960, et il y a eu la réunification du Cameroun, puisqu'il y avait deux parties, une partie anglophone, une partie francophone, et la réunification, elle a 50 ans tout juste, puisque c'était en octobre-novembre de 1961 que ça a été effectué.
Et d'ailleurs, on va peut-être parler un petit peu rapidement de ce livre et d'un site quoi qui est vraiment furieusement bien fourni avec des documents, des sources, de l'audio, de la vidéo. On n'a presque plus besoin de lire le livre. Et est-ce que vous avez fait ce site pour les Camerounais en fait?
Bon, on a, on on a fait ce site pour tout le monde, en fait, pour à la fois les gens qui n'ont pas forcément envie de lire un livre assez épais, mais aussi pour ceux qui veulent avoir des compléments d'information, bon, pour les lecteurs, quoi. Et puis effectivement, avec un petit accent particulier pour les Camerounais, pour les Africains en général, puisque l'accès aux livres, malheureusement, est un peu difficile en Afrique. Et du coup, c'est quand même une façon pour des gens qui ont soit peu d'argent, et malheureusement il y en a beaucoup au Cameroun, soit peu d'accès aux livres tout bêtement, puisqu'il y a très peu de librairies aussi, d'au moins avoir un aperçu. Donc on a mis des résumés de chaque chapitre sur le site pour que justement les gens puissent savoir un peu ce qu'il y a dans ce livre, même s'ils ne le lisent pas, même s'ils ne le possèdent pas, disons. Et alors après, est-ce que ça suffit? Après, ça dépend. Si on veut comprendre dans les détails ce qui s'est passé, si on veut comprendre toutes les logiques, c'est pas mal de regarder le livre.
Hein. Ouais, c'est clair. Ouais. Mais c'est une histoire qui reste cachée en France, comme au Cameroun, en fait.
Donc c'est ça aussi. C'est-à-dire qu'on est face à un phénomène assez bizarre, assez spécial, peut-être un peu unique. C'est-à-dire d'une guerre qui a été menée par une puissance coloniale, en l'occurrence la France, une véritable guerre, hein. Nous, on insiste vraiment sur ce terme-là, puisque c'était un terme qui était utilisé par les militaires français eux-mêmes à l'époque quand ils étaient sur le terrain. Nous faisons la guerre, où ils disaient c'est bien parce que nous avons conscience d'être en guerre que nous pouvons faire ceci, cela. Donc il y a eu vraiment une guerre menée par la France officiellement, hein, et commandée depuis les plus hautes hiérarchies de françaises. Dans ce pays, le Cameroun, mais là où le phénomène est quand même assez spécial, c'est que ça a été complètement effacé des mémoires, en tout cas de la plupart des mémoires. En France, on en a très très peu parlé jusqu'à récemment, jusqu'à très récemment en fait, et les autorités françaises refusent de reconnaître qu'il s'est passé quoi que ce soit au Cameroun à ces époques-là. Et au Cameroun aussi, c'est ça qui est encore plus étonnant, c'est-à-dire qu'au Cameroun, énormément de gens ne savent pas très bien ce qui s'est passé au moment de la décolonisation, tout simplement parce que cette guerre a été perdue en réalité par les forces d'émancipation, par les forces nationalistes, et que ceux qui ont gagné donc le pouvoir néocolonial pro-français, qui a muté en dictature très rapidement, a essayé d'effacer des mémoires le mouvement populaire qui avait réclamé l'indépendance pendant toutes les années 50. Donc on va revenir peut-être sur ces...
on va revenir sur cette guerre et refaire un peu l'histoire.
Sur le fait, peut-être pour commencer, j'insiste sur le fait qu'on est face à une guerre qui a été effacée des mémoires, qui pose encore d'énormes problèmes aujourd'hui, mais que la France, première responsable, refuse de reconnaître. Et ça, j'en veux pour preuve l'attitude de François Fillon, par exemple, en 2009. Donc François Fillon est allé au Cameroun pour signer des nouveaux accords de défense. Bon, et une question lui a été posée publiquement par une journaliste pour savoir quelle était la responsabilité de la France, et en particulier de l'armée française dans ces événements. Et lui a répondu comme ça, tout de go, c'est de la pure invention. Tout ça, il a dit tout cela, ça relève de la pure invention. Ce qui est absolument fascinant, pendant ce temps-là, nous, avec mes camarades et amis Manuel et Jacob, on était dans les archives en train de voir toutes les... Et on discutait avec tous les témoins directs dans tous les villages camerounais qui racontaient les bombardements, la torture, etc., etc. Et tout ça, c'est soi-disant de la pure invention. Donc aujourd'hui, ça commence un peu à sortir, mais et depuis le livre, il y a eu des mobilisations... politique, on a vu des députés poser des questions officiellement au gouvernement, mais la question reste sans réponse. C'est-à-dire, le député en question pose la question, quelle est l'attitude de la France? Est-ce qu'elle reconnaît aujourd'hui ces événements comme une guerre, etc., etc.? Et il n'y a pas de réponse. On attend depuis des mois une réponse. Vous pouvez regarder sur le site internet de l'Assemblée nationale, il n'y a pas de réponse. C'est scandaleux et fascinant en même temps.
Pour commencer un petit peu l'histoire, le Cameroun au départ, c'était avec un K, Cameroun, c'était quoi? C'était une colonie allemande?
Alors au départ, c'est toujours difficile de voir le départ, mais si on reste sur la colonisation...
De la colonisation, c'est ça que je voulais dire, oui.
Voilà, dans la dernière phase de la colonisation, disons, le Cameroun avait été conquis, on va dire, contrôlé par l'Allemagne à la fin du 19e siècle, d'où cette orthographe Cameroun avec K, K-A-M-E-R-U-N, qu'on voit souvent et qui est donc le titre de notre livre. Je vais vous expliquer pourquoi. Parce que donc c'était ce qu'on appelle une colonie allemande, quoi.
D'accord.
Et il se trouve que après la Première Guerre mondiale, les Allemands ayant perdu la Première Guerre mondiale, leurs possessions ultramarines ont été divisées entre les gagnants de la guerre, en l'occurrence pour le Cameroun comme pour le Togo, la division s'est faite, le partage s'est fait entre les Français, donc qui contrôlaient donc à partir de ce moment-là 4/5 du Cameroun allemand, et les Anglais, les Britanniques, 1/5 du Cameroun allemand. Donc voilà, en fait, trois, disons, on va dire dans le dernier siècle, trois colonisateurs.
D'accord.
Cameroun, puis, allemand, puis franco-britannique.
Mais dès lors, c'est sous un mandat donc de la Société des Nations qui va se transformer. On va faire un petit saut dans l'histoire en 45 à la sortie de la deuxième guerre 39-45 en mandat de l'ONU. Donc c'est pas officiellement une colonie française et pourtant tout s'y passe comme dans une colonie française.
Alors c'est ça qui est extrêmement important. Je pense que là il faut vraiment souligner ce que vous venez de dire. C'est-à-dire que la plupart des pays AEF et AOF, donc Afrique occidentale et Afrique équatoriale française, étaient des colonies. Donc en gros, la France avait la souveraineté pleine et totale sur ces territoires et faisait absolument ce qu'il voulait. Sur le Cameroun et le Togo, c'est très différent. C'est très différent en théorie, on va dire. Effectivement, c'est très similaire en pratique, comme vous l'avez souligné, mais c'est très différent en théorie. C'est-à-dire que reprenant les territoires allemands, comme c'était sous le contrôle de la Société des Nations puis de l'ONU, la France et la Grande-Bretagne avaient donné leur accord, avaient signé un accord les obligeait finalement à rendre des comptes sur leur gestion de ces territoires. Et donc il y avait tout un règlement, hein, à la fois au moment de la SDN, après la Première Guerre mondiale, et après au niveau de l'ONU, après la Deuxième Guerre mondiale, il y avait tout un règlement. Les puissances administrantes, comme on les appelait, doivent faire ceci, cela, doivent apporter le bonheur. Enfin, je vais un peu vite, mais disons, doivent suivre un règlement. Et il y avait des missions internationales, donc de la Société des Nations, puis de l'ONU, qui venaient sur place pour vérifier que cette bonne gestion était respectée, etc. Et là où c'est extrêmement important, c'est que du coup, ça donnait des droits, en fait, aux indigènes. Les indigènes avaient des droits, ils pouvaient se référer à un tiers, disons, pour résister aux administrations coloniales. C'est-à-dire, ils pouvaient se référer au texte en disant, vous nous devez quand même ça, vous devez respecter une certaine équité, une certaine justice. Et surtout, à partir de 1945, dans les accords de tutelle, il y avait cette idée, qui était écrite noir sur blanc, que les puissances administrantes doivent amener le pays à un autogouvernement ou à l'indépendance.
Et c'est
alors là, évidemment, c'est révolutionnaire. C'est-à-dire que pour les indigènes, comme on les appelait, pour les Camerounais, ça permettait de dire, bon, chers amis administrateurs coloniaux, voilà l'objectif. Voilà l'objectif que vous devez poursuivre. Et c'est en cela que les pays sous tutelle et en Afrique étaient un peu des prototypes de ce qui devait advenir, c'est-à-dire des pays indépendants. Ouais,
c'est ce que déclare Pleven donc, pour parler de la conférence de Brazzaville de 1944 qui pose un peu les bases de cette coopération eurafricaine. Il dit l'incorporation des masses indigènes dans le monde français, révolution de nos liens avec elles, du stade du dévouement instinctif du sergent Malamine au loyalisme nécessairement différent et plus nuancé de l'éduqué et du citoyen. C'est l'ascension des populations africaines vers la personnalité politique. Donc on a vraiment, j'ai l'impression, là, de résumer le projet qui va se mettre en place au Cameroun d'une soi-disant accompagnement vers l'autonomie donc en 59 et l'indépendance en 1960, mais une autonomie et une indépendance
à coup de trique, hein.
Un peu disons limitée, quoi.
Contrôlée, ouais.
Voilà,
contrôlée
pour le moins.
En fait, les Français vont s'attacher à maintenir surtout l'esclavage, quoi. C'est-à-dire que cette autorité française va se manifester sous la forme de coups de trique.
Donc, en fait, l'idée, en fait, très rapidement, notamment sous la pression du contexte international de l'époque, c'est-à-dire de la guerre froide, où on a à la fois les États-Unis et l'URSS qui revendiquent, on va dire, des programmes anti-impérialistes, de fait de leur histoire ou de leur idéologie. À cause de la pression de ces deux grandes puissances, les puissances coloniales, colonisatrices, telles l'Angleterre et la France, vont devoir réformer leur système colonial. Et c'est exactement ce qui va se passer, justement, donc dans l'après-Deuxième Guerre mondiale. Et donc l'idée, en fait, c'est de réformer, de rendre, entre guillemets, plus humain le colonialisme pour le faire durer.
Oui,
ça, donc
c'est...
On rentre dans un engrenage, de façon, qui va vers la décolonisation, ce que Focard, en 1954, appelle le temps des abandons. Hein, c'est-à-dire on est obligé d'abandonner un petit peu, mais pour finalement mieux garder la mainmise sur ces territoires. Et c'est ce qui va, au bout du compte, amener à ces fausses indépendances, hein, qu'on décrit dans le livre, dans le cas du Cameroun. Et alors, vous parlez de « à coup de trique ». Et effectivement, c'est exactement ce qui se passe au Cameroun, c'est-à-dire que grâce au texte de tutelle, c'est-à-dire qui promettent aux populations l'autogouvernement ou l'indépendance, et aussi des droits sociaux, des mouvements de revendication vont naître après la Deuxième Guerre mondiale, et notamment des mouvements syndicaux, et un parti politique qui va s'appeler l'Union des Populations du Cameroun, UPC, qui va revendiquer tout simplement son droit, c'est-à-dire on veut l'indépendance, on veut que notre pays devienne indépendant. Donc la triple revendication de l'UPC, qui est créée en 1948, c'est indépendance du pays, réunification des Camerounes britanniques et français, et ce qu'ils appellent élévation des standards de vie, c'est-à-dire en fait justice sociale, hein, c'est que les Camerounais aient droit, les mêmes droits finalement que les métropolitains sur leur propre territoire. Donc c'est, voilà le triptyque. Au départ, c'est un parti qui est relativement mesuré, c'est-à-dire qu'en fait, par exemple, on le voit dans la façon dont ils revendiquent l'indépendance. Ils ne demandent pas l'indépendance tout de suite, ce qui, a priori, serait tout à fait légitime. Ils disent, bon, on va nous aussi laisser un délai à la puissance administrante pour qu'elle nous amène, pour qu'elle amène le pays à l'indépendance, ce qui est finalement un programme relativement, très mesuré.
Ouais, il y a une première. Il me semble qu'il y a une première période, celle qui est donc de, on va dire, de la conférence de Brazzaville jusqu'en 1955, où il y a une lutte de l'UPC, l'Union des Populations du Cameroun, avec à travers l'ONU, à travers un syndicalisme, à travers des luttes, on va dire, démocratiques, pour gagner une bataille politique de l'indépendance. Quelque part, ils ont cru aussi à ces promesses.
Absolument, c'est exactement ça. C'est-à-dire que d'une certaine façon, ils croient eux aussi à l'indépendance progressive, à une forme d'amélioration du colonialisme. D'une certaine façon, ils sont encore un peu pénétrés par ça. Et la preuve, c'est d'ailleurs l'hymne national qu'on a entendu tout à l'heure, était revendiqué par... Enfin, l'UPC le chantait aussi. Hein.
Ah bon ?
Voilà. Donc, au départ. Donc, c'était un mouvement qui était relativement modéré, je veux dire, surtout vu la perspective qu'on peut avoir aujourd'hui. C'est-à-dire l'indépendance me paraît absolument normale. Quand on lit à l'époque les tracts de l'époque de l'UPC, on trouve que c'est relativement modéré. Simplement pour l'époque, et notamment et surtout pour les administrateurs coloniaux français, ça paraît ultra radical.
Oui, on a
commencé à parler d'indépendance, mais quelle outrecuidance, d'une certaine façon.
Des communistes.
Voilà, alors du coup, comme on est dans un contexte de guerre froide, on va coller sur ce mouvement, l'UPC, qui a effectivement une sorte d'enthousiasme pour le projet communiste, mais qui n'est pas un parti communiste uniforme, on va dire. C'est-à-dire qu'il y a à l'intérieur de l'UPC des gens qui sont inspirés par les modèles communistes et d'autres qui ne le sont pas du tout. Donc c'est vraiment un parti nationaliste pluraliste, on va dire, à l'intérieur desquels il y a plusieurs tendances. Et l'administration coloniale va décréter que c'est un parti communiste. Et à partir de là, va lancer toute une machine répressive, qui est d'abord une machine répressive, on va dire, juridique et politique. C'est-à-dire, politique, c'est le trucage des élections. C'est-à-dire, dès qu'un candidat va se présenter, il va perdre. Par exemple, Oumniobé, le secrétaire général de l'UPC, qui est quelqu'un d'extrêmement populaire à l'époque chez les Camerounais, qui parle 6 ou 7 langues camerounaises, qui est vraiment quelqu'un d'exceptionnel. Et d'ailleurs, l'administration le reconnaît dans ses rapports privés, perd à plate couture quand il se présente aux élections. Alors que, de façon évidente, il était sûr de gagner. Bon, ça, c'est une forme de répression, mais c'est aussi un harcèlement judiciaire, un harcèlement fiscal. On mute les gens de l'UPC d'une ville à l'autre, ce qui les empêche en fait de travailler et de militer. Enfin, c'est tout un harcèlement comme ça. On leur crée des faux partis et des fausses associations. C'est-à-dire, on paye des Camerounais pour lutter contre eux, parfois violemment et physiquement. Donc, évidemment, pendant toute cette période de la fin des années 40 et du début des années 50, la vie de l'UPC est assez difficile et les UPCistes ont énormément de mal à faire valoir leur programme. Et pourtant, leur popularité ne cesse d'augmenter, leurs militants ne cessent d'être plus nombreux, c'est marqué dans les rapports secrets de l'administration coloniale, et ça énerve d'autant plus l'administration coloniale qui s'aperçoit en outre que les responsables de l'UPC commencent à avoir des liens avec l'extérieur. On voit des rapports au milieu des années 50, vers 53, 54, 55, où on s'aperçoit que les leaders de l'UPC commencent à avoir des connexions en Chine, en France, en URSS, et même en Algérie. Et là, évidemment, ça commence à les inquiéter. Et ça les inquiète énormément à partir de 54, quand explose la guerre d'Algérie.
Mais du coup, comment ça se passe au niveau social? Parce qu'on a, on a une non-colonie française, donc ce n'est pas une colonie française. Le code de l'indigénat est aboli de toute façon en 1946. Donc je rappelle, le code de l'indigénat, c'est un espèce de système d'apartheid, en fait, hein, qui prive de droits les citoyens indigènes. Et pourtant, ce code est appliqué de manière informelle. Et comment ça se passe au niveau des luttes sociales, le syndicalisme indigène, etc. Qu'est-ce qui se passe dans cette période? Est-ce qu'il n'y a que l'UPC? Est-ce qu'il y a d'autres courants? Est-ce qu'il y a des grèves? Alors,
effectivement, le code de l'indigénat, il n'est pas respecté, il ne continue pas après 1946 au sens strict, il continue dans ses formes et dans son esprit, on va dire. Par contre, le travail forcé, qui est aboli lui aussi théoriquement à la même période, se poursuit. On a interrogé, nous, pour le livre, des administrateurs coloniaux qui expliquaient que jusqu'au milieu des années 50, ils poursuivaient, ils continuaient à obliger les gens à travailler, à construire des routes, des infrastructures, etc., pour le bien du capitalisme colonial. En fait, hein.
Oui, c'est un document intéressant, ça. C'est voilà, un document intéressant parce qu'on entend une personne qui dit il le faisait quelque part du fait de ma seule autorité, comme si c'était quelque part ils étaient nimbés d'une espèce de d'autorité naturelle comme blanc.
Absolument, mais c'est ça, c'est un administrateur colonial qui explique sur ses vieux jours, il est mort maintenant, mais il explique quand on le rencontre que il le faisait parce qu'il trouvait que c'était bien, que c'était ce qu'il fallait faire, que c'était, et il dit c'était pour leur bien, c'est-à-dire je les faisais travailler à coup de trique, je les faisais travailler gratuitement, mais c'était pour leur bien, c'était pour le bien commun. Et là, on voit, alors ça nous emmène sur un peu un autre sujet, mais on voit un peu les racines de ce que c'est que l'idéologie du développement aussi. C'est-à-dire, on dit, voilà, le développement, c'est, il faut suivre cette route-là, et vous allez voir, ça va être bien pour vous. Mais c'est pas les gens qui décident ce qui est bien pour eux. Hein. Donc ça, c'est intéressant. Alors, pour ce qui est de la question du syndicalisme, il y a effectivement plusieurs syndicats, c'est-à-dire qu'après la Deuxième Guerre mondiale, les autorités françaises métropolitaines autorisent le syndicalisme indigène dans les colonies et dans les territoires associés, tels que le Cameroun. Donc il y a plusieurs syndicats. Il y a l'USCC qui est affilié à la CGT, hein, et c'est de là que va naître effectivement l'UPC. Enfin, un certain nombre de personnalités de l'UPC émanent de l'USCC, mais il y a d'autres formations telles que Force ouvrière, les syndicats chrétiens, etc., etc. Simplement, les syndicats chrétiens, Force ouvrière vont se développer et vont être suscités en grande partie par l'administration coloniale pour essayer d'écraser les mouvements nationalistes.
Voilà, qu'est-ce qui fait que l'UPC est interdit en 1955 et il prendra le maquis 2 ans plus tard, je crois. Mais qu'est-ce qui fait qu'à un moment donné, il y a cette croisade anticommuniste qui prend vraiment une belle ampleur?
Alors, là, il y a eu quelques débats historiographiques sur cette question d'interdiction de l'UPC. L'histoire officielle, c'est que l'UPC aurait organisé une sorte de grève insurrectionnelle en mai 1955, c'est-à-dire effectivement en mai 1955 il y a des émeutes dans plusieurs villes et notamment la capitale politique Yaoundé, la capitale économique Douala, et à cause de ça, les autorités françaises auraient été obligées d'interdire ce parti subversif, communiste, qui essaie de déstabiliser l'ordre légal, etc., etc. Ça c'est la version officielle que beaucoup d'historiens malheureusement continuent à reprendre, mais en réalité l'idée d'interdire l'UPC était antérieure aux émeutes de mai 1955. On a retrouvé des documents aux archives coloniales à Aix-en-Provence qui expliquent ça, où on voit des rapports secrets, des rapports internes entre le ministère des colonies, le ministère de la France d'Outre-mer à Paris et l'administration coloniale à Yaoundé, qui explique que faudra bien à un moment donné songer à interdire l'UPC. On commence déjà à sortir des vieilles lois de l'entre-deux-guerres qui permettraient potentiellement de faire interdire l'UPC, etc., etc. Et est envoyé à la fin de l'année 1954 un nouveau haut commissaire, c'est-à-dire en gros le préfet de la France sur place, qui est un anticommuniste fervent. Et qui, lui, est décidé, en fait, à faire interdire l'UPC.
Mesmer.
Il met une pression. Non, en l'occurrence, Roland Pré.
D'accord, Roland Pré. C'est Roland Pré d'abord. D'accord.
Voilà. Et ce Roland Pré, qui est quelqu'un d'inconnu aujourd'hui en France, mais au Cameroun est extrêmement connu, parce qu'il a justement mis une pression énorme sur à la fois les militants de l'UPC, mais aussi sur les populations. Il a fait dégénérer la situation. Il a payé vraiment des milices pour créer une sorte d'état de guerre civile à l'intérieur des milieux politiques camerounais. Et évidemment, suite logique à cette pression, les Camerounais n'ont plus supporté et il y a eu des émeutes. Et effectivement, ensuite, ça a permis de justifier l'interdiction. Mais en fait, l'interdiction était simplement comprendre que on est en 1954-1955, au moment où la guerre d'Algérie est déclenchée.
Oui, c'est ça. J'ai l'impression que le tournant, il est finalement en 54 à la défaite de l'Indochine, voilà. Le début de la guerre d'Algérie, et il y a une des pièces maîtresses, c'est la doctrine militaire française inspirée par le colonel Charles Lacheroy, donc sur la guerre révolutionnaire. Voilà. Où j'ai l'impression.
Alors là, on a une conjonction en fait de faits qui est très très intéressant. C'est effectivement Dien Bien Phu qui est considéré ici comme une défaite, mais qui est aussi une victoire pour les forces d'émancipation. Mais on a le début de la guerre d'Algérie avec la Toussaint Rouge, Toussaint 1954, et on a effectivement cette doctrine militaire, c'est-à-dire une doctrine de guerre contre-insurrectionnelle. C'est à l'intérieur de l'armée française un courant qui explique qu'on est rentré dans un nouveau type de guerre, c'est-à-dire qu'on ne se bat plus face à un ennemi en face à face, mais on se bat face à un ennemi qui est infiltré dans la population civile, et qu'il va falloir exfiltrer.
Oui, après le pour aller vite
alors,
sur.
Ce qui est intéressant, juste pour terminer là-dessus, c'est que Roland Pré, quand on lit ses rapports, avant même d'arriver, il est persuadé que le Cameroun va devenir une nouvelle Algérie ou une nouvelle Indochine. Ça, c'est le premier point. Et deuxième point, il est complètement habité par les théories contre-insurrectionnelles de Charles Lacheroy. Et ce qu'on a retrouvé dans les archives, c'est que le premier document qu'il envoie à toute l'administration coloniale, donc tous ces subalternes au Cameroun, premier document qu'il envoie, ça s'intitule « Une leçon de guerre révolutionnaire » signée par Charles Lacheroy, qui est la première théorisation, finalement, de la guerre contre-révolutionnaire, de la guerre révolutionnaire de Lacheroy. Et en gros, c'est ça qui est absolument fascinant, c'est qu'il envoie ce document à toute l'administration française au Cameroun, et il leur dit « Maintenant, c'est ça la grille de lecture ». C'est-à-dire que les gens que vous avez en face, les UPCistes, les nationalistes, c'est plus des hommes politiques, c'est plus des gens qui ont un programme, c'est en fait des petits soldats habillés en civil qui sont infiltrés dans la population civile et qui en fait appliquent le programme de Moscou. Et donc, il va falloir les éradiquer. C'est hallucinant. Quand on lit ça, c'est vraiment hallucinant.
Parce que
effectivement, à partir de là, on va voir tous les rapports de l'administration coloniale qui vont être recyclés dans ce type de vocabulaire où les gens qui sont simplement des opposants ou des gens qui ont un programme politique vont devenir des subversifs, des communistes. On voit dans ces rapports, on voit Roland Pré parler du Viet Minh camerounais. Alors qu'en face, alors que quelques mois plus tôt, on disait simplement, voilà, on a des gens qui sont des nationalistes et qui veulent... qui n'étaient pas aimés par l'administration, mais qui n'étaient pas considérés comme des ennemis à abattre physiquement, quoi. Hein. Et à partir de 1955, c'est ça qui se passe.
Parce qu'à partir d'une lecture classique, dirait, en gros, il y a un passage à la lutte armée et une répression. Et en fait, si on lit bien, on a en 1952 Ruem Nyombe qui va à l'ONU, qui trouve un peu des soutiens, donc qui sont vraiment dans une lutte politique de libération, et la France qui se tend, qui commence à essayer d'assécher le bocal, hein, pour aller vite sur la guerre révolutionnaire, et qui profite de cette situation de tension pour mettre en place un véritable état de guerre, état de siège sur la population camerounaise.
Voilà, c'est exactement ça, c'est-à-dire qu'à partir du moment où en 1955, donc en juillet 1955, l'UPC est interdite, on se retrouve dans une situation complètement nouvelle. C'est-à-dire qu'on avait un parti politique qui avait des actions légales, qui allait à l'ONU, hein, parce que l'ONU contrôlait théoriquement la situation au Cameroun. Donc, Niobe avait été envoyé à l'ONU par les militants qui s'étaient cotisés pour pouvoir porter la parole de l'UPC sur la scène internationale. Donc, on est vraiment dans un schéma extrêmement légaliste et non violent. C'est-à-dire on va vraiment, par l'argument, pousser nos convictions. Et à partir de 1955, le parti est interdit. Et là, forcément, toute la légalité pose problème. C'est-à-dire qu'à l'intérieur de l'UPC, on ne sait plus comment agir. On dit, bon, on a toujours voulu une lutte légale, maintenant on est illégaux. Comment on fait? Et donc, effectivement, on voit un basculement vers l'illégalité et petit à petit vers la violence. C'est-à-dire qu'à l'intérieur de l'UPC, des gens disent, bon, on a échoué avec la lutte légale, avec la lutte politique, donc maintenant, il faut rentrer dans la lutte armée et la lutte illégale. Nous n'avons pas le choix.
Mais là encore... Là encore, il va falloir du temps à l'UPC, parce que on a finalement en 1956, ça se tend. Il y a la création de la ZOE, la zone de maintien de l'ordre en Sanaga-Maritime, la répression qui s'enclenche, et au final, parce que là on rentre dans le vif de la guerre, même si la colonisation est un acte de guerre déjà au départ, on rentre dans le vif d'une guerre ouverte à partir de 1955-56, avec ces mises en place de zones de maintien de l'ordre, hein, on va en parler, et la création d'une armée de libération du Cameroun n'intervient qu'en 1959, si j'ai bien compris.
Alors là, en fait, il y a plusieurs phases dans l'entrée en guerre ouverte, on va dire. C'est-à-dire que entre 1955, interdiction de l'UPC, et fin 1956, il n'y a pas de guerre ouverte. C'est-à-dire qu'on a un parti qui est illégal, donc des gens qui agissent dans l'illégalité, qui créent d'une certaine façon une forme d'administration parallèle à l'administration coloniale, qui disent, nous, on en a ras-le-bol, on va maintenant devenir souverain, on va prendre notre souveraineté. Et d'ailleurs, le mot d'ordre change à ce moment-là. L'UPC, qui avait dit, on va laisser un délai à l'administration coloniale pour nous amener à l'indépendance, dit maintenant, nous voulons l'indépendance immédiate. À partir du moment où le parti est interdit, ils créent leur propre souveraineté, ils créent leur propre administration parallèle. Bon, ça c'est la première chose. Et la guerre éclate, c'est-à-dire les armes éclatent à la fin 1956, à cause d'un monsieur qui s'appelle Pierre Messmer, qui sera plus tard le Premier ministre français. Mais à cette époque, il est haut commissaire, il est le successeur de Roland Pré, il devient haut commissaire de la France au Cameroun. Et là, il décide quelque chose d'assez aberrant, et qui est à la racine du néocolonialisme français et à la racine de la France-Afrique. Il décide d'organiser des élections, qui seront truquées, évidemment, mais des élections, mais il maintient l'interdiction sur l'UPC. Et il dit, on va organiser des élections, mais le seul parti qui a un programme qui n'est pas un programme pro-français est interdit. Donc évidemment, les électeurs camerounais sont invités à venir se faire couper la tête, en gros. Hein, ils sont invités à venir voter pour des gens qui ne défendent pas leurs intérêts. Ils n'ont pas le choix. Donc ils vont effectivement aller voter pour certains, et ils vont voter donc pour des gens qui sont pro-français. Mais pour l'UPC, c'est évidemment inacceptable. L'UPC décide donc de faire dérailler par la violence, ou en tout cas par l'action, ces élections. Et donc en décembre 1956, c'est ce que l'UPC appelle le boycott actif, c'est-à-dire on se contente pas de boycotter, mais on boycotte activement le scrutin. Et dans différentes régions du Cameroun, le scrutin est effectivement empêché physiquement, c'est-à-dire on brûle des ponts, enfin les UPCistes brûlent des ponts, vont dans les bureaux de vote, etc. Et même il y a un candidat et son suppléant qui sont tués.
D'accord.
Donc effectivement, à partir de là, Pierre Messmer, qui ne pensait pas en fait que l'UPC oserait sauter le pas, décide de mettre en place des zones d'exception militaires avec parachutistes et compagnie, comme sur les modèles algériens de la même époque, et on rentre là dans une situation de guerre véritable, ou avec des opérations militaires.
Quoi. Avec des camps de rétention, avec avec la pratique de la balançoire, de la baignoire, ces tortures-là.
Là, effectivement, le Cameroun change d'aspect. À partir de fin 1956, début 1957, on rentre dans un pays en guerre, hein, véritablement, avec des zones d'exception interdites, où les gens ne peuvent plus circuler, où les villages sont vidés par la force. C'est-à-dire, on va dans les villages, on brûle leurs maisons, on brûle leurs récoltes, etc. Et on les oblige à aller dans des camps de regroupement, hein, ce qu'on appelle des camps de regroupement, qui sont installés le long des routes, le long des voies de communication, pour mieux les contrôler. Donc des camps avec des barbelés, avec des baraques numérotées, où on compte le nombre d'habitants, le nombre de femmes, le nombre d'enfants, le nombre d'assiettes, le nombre de cuillères, pour bien savoir si les gens font ce qu'on leur dit. On les bassine de mots de propagande pour leur expliquer que l'administration française est formidable, que les UPCistes sont des sauvages, etc., etc. Et ça, tout le but, donc c'est la doctrine de la guerre révolutionnaire dans son aspect le plus basique, c'est de, effectivement, vider l'eau pour assécher le poisson. C'est-à-dire, on vide donc les campagnes pour que les militants UPCistes, ceux qui continuent à vouloir résister, soient seuls dans la brousse. Et du coup, en regroupant les villages, on fait des zones gardées, et tous les gens qui refusent d'aller dans ces zones protégées, entre guillemets, peuvent être abattus sans sommation dans les zones interdites. Hein, c'est exactement le même fonctionnement qu'en Algérie à la même période. Et donc là, on ne sait pas du tout combien de gens ont été tués, mais sans doute énormément. Et on sait qu'en tout cas, il y a énormément de gens qui restent en brousse, qui refusent donc le diktat de l'armée française, et ce sont des dizaines de milliers de personnes qui vivent pendant toute cette période en brousse. Alors évidemment, ça aide la propagande signale, qui dit que c'est des sauvages, etc., etc. Mais en fait, c'est tout simplement des militants qui refusent, qui s'insoumettent à l'ordre de l'armée française.
Et là, on est en Sanaga-Maritime, mais il y a une insurrection qui explose dans le nord du pays, en pays Bamileke, si j'ai bien compris, et qui là aussi sera réprimée très durement avec ces mêmes méthodes.
Voilà. Alors, ce qui est intéressant, en fait, c'est qu'il y a eu tout un débat, il y a tout un débat actuellement sur la caractérisation de ce mouvement. Beaucoup de gens, c'est encore l'historiographie officielle qui dit ça, disent que ce mouvement insurrectionnel n'est finalement que le résultat de d'une seule ethnie, hein, l'ethnie Bassa, qui est un peu excitée, très soumise aux sorciers, etc., etc., se serait rebellée de façon un peu irrationnelle, etc., etc. En réalité, et là, quand on regarde les documents, c'est parfaitement clair, c'est un mouvement national, c'est-à-dire que dans plein de régions, dans quasiment toutes les régions, il y a eu ce sentiment nationaliste très fort. On a vu une résistance très tôt dans différentes régions, mais c'est effectivement principalement dans la région Bassa, dans la Sanaga-Maritime, que ce mouvement, on va dire révolutionnaire, a prospéré dans un premier temps. Et donc, et d'ailleurs, l'administration et l'armée française ont essayé de le cantonner, hein, ont essayé de dire que ça, non seulement de dire que ça ne se passait que là, mais aussi de faire des frontières à l'intérieur de cette région pour que le mouvement subversif, entre guillemets, ne se propage pas ailleurs. Mais en réalité, les germes de ce nationalisme qui était dans tout le pays, ou en tout cas dans tout le sud du pays, dans tout le sud du Cameroun, ont ressurgi ensuite, à partir de 1957-58, et surtout 59, notamment à Douala, la capitale économique du pays, et aussi et surtout dans la zone Bamileke, donc qui en fait qu'on appelle l'Ouest Cameroun, même si c'est effectivement au nord de Yaoundé, ça s'appelle l'Ouest Cameroun, et qui est la région frontalière avec le Cameroun anglophone, qui permet d'ailleurs d'entretenir la lutte, hein, puisque les gens peuvent passer la frontière pour se réfugier.
Oui, mais l'armée française n'hésite pas à passer la frontière aussi elle-même, voilà, pour réprimer. Et il y a Jean Lamberton donc, qui déclara sur cette insurrection, elle a été châtiée en 1958 et la région a été dépeuplée à 50%. C'est-à-dire qu'il y a aussi des reconnaissances claires de 50% de dépeuplement. Je ne veux pas compter les morts, puis on n'est pas là pour ça, mais il s'agit d'écraser, quoi.
Alors ça, c'est clair et net, hein. Alors justement, sur la question des bilans des morts, il faudra peut-être y revenir, mais sur cette question, sur la région Bamileke, autant il y avait énormément de racisme et d'ethnicisme colonial à propos des Bassa, mais à propos des Bamileke, donc les gens qui vivent dans cette région de l'Ouest Cameroun, là c'est carrément, c'est des propos qui frisent parfois les propos génocidaires, hein. Vous citez Jean Lamberton, qui a la particularité d'être intéressé à la fois à la répression, à avoir dirigé la répression au Sanaga-Maritime, puis à l'Ouest Cameroun, qui explique que les Bamileke sont un caillou dans la chaussure du Cameroun et qu'il va falloir donc l'éliminer, le pulvériser. C'est quand même assez, avec des propos mais absolument aberrants et hallucinants sur les Bamileke, et absolument faux d'ailleurs. Et donc oui, dans une deuxième phase, on va dire à partir de 1958 et surtout 59, la pression française, de l'armée française, va être principalement portée sur l'Ouest Cameroun, qui reste le berceau, qui reste l'endroit finalement où l'insurrection est la plus forte. C'est-à-dire qu'on a un peu une insurrection en deux phases et en deux régions. D'abord en Sanaga-Maritime jusqu'en 1958, puis en 1959 en région Bamileke, l'Ouest Cameroun, et ça durera après l'indépendance. Et il faut savoir que Robin Oumyobé, dont on parlait tout à l'heure, le fameux secrétaire général de l'UPC, a été tué en Sanaga. Lui, il était originaire de la Sanaga-Maritime, a été tué par l'armée française. On a trouvé les documents, là encore, dans les archives militaires françaises. Il a été tué sans légitime défense. D'ailleurs, il a été abattu par l'armée française en septembre 1958.
D'accord. Donc
ça a quand même un peu tué le mouvement.
Voilà, c'est ça.
Même si ça a continué à persister, ça a repris à certaines périodes en Sanaga-Maritime, quand même, beaucoup de gens ont considéré que, à partir du moment, dans cette région, ont considéré que Robin Oumyobé étant mort, il fallait arrêter la lutte parce que c'était condamné, quoi. Et d'ailleurs, là, c'est des dizaines de milliers de gens qui rentrent, hein, qui se rallient, on va dire, à l'administration, comme l'administration dit, à l'ordre colonial, d'une certaine façon, qui rentrent, qui sortent de brousse, quoi, et qui se retrouvent aussi parqués dans des villages de regroupement.
Donc on
en a... À l'ouest du Cameroun, par contre, ça continue.
Ça continue. Ouais.
Mais comment c'est... Parce que j'imagine qu'il y a des morts dans les rangs de l'armée française aussi. Donc comment ça se passe en France? Est-ce qu'au niveau de la presse, est-ce que tout le monde... Enfin, est-ce qu'il y a des gens qui parlent... Enfin, est-ce qu'il y a des journaux qui parlent de ces événements-là? Est-ce que c'est complètement passé sous silence? Comment ça se passe?
Alors ça, c'est une très bonne question. Alors, là aussi, il y a plusieurs phases. C'est-à-dire que pour la presse... métropolitaine, on va dire. La presse métropolitaine, des journaux comme l'Observateur, l'Humanité, La Croix, etc., parlent relativement des événements politiques au Cameroun jusque vers 1956. C'est-à-dire jusqu'au moment où la guerre éclate, la guerre chaude, la guerre déclarée éclate. À partir de 1956, on n'a plus que les plus militants, les anticolonialistes les plus militants qui continuent à s'intéresser au Cameroun. Puisqu'il y a un blackout total qui est fait. Hein. C'est-à-dire que quelqu'un comme Lamberton, par exemple, explique qu'il faut, il dit, hein, c'est une citation, il faut faire régner le silence. C'est-à-dire que pendant qu'ils sont en train de réprimer, pendant qu'ils sont en train de torturer, pendant qu'ils sont en train de brûler les villages, etc., il dit qu'il faut faire régner le silence. Donc il n'y a plus aucun journaliste qui peut rentrer là. Et voilà, donc on a l'impression à l'extérieur qu'il ne se passe rien. Donc ça, c'est la première chose. Il n'y a plus que donc les journaux les plus militants qui continuent à en parler. Mais bizarrement, même ces journaux les plus militants, les plus anticolonialistes, sont dans cette idée que vraiment, l'UPC n'aurait pas dû utiliser la violence, c'était un mauvais choix, etc. Et finalement, ça devient les victimes qui sont coupables. Même dans les journaux anticolonialistes, on voit des commentateurs anticolonialistes qui vont expliquer que vraiment, l'UPC, c'était une mauvaise stratégie, que vraiment, finalement, ils sont un peu sauvages, quoi, un peu... Donc ça, c'est assez stupéfiant. Et après, à partir de 1958-59, on n'entend presque plus du tout parler. Quoi.
D'accord.
Alors que la guerre se poursuit, on n'entend presque plus du tout parler.
Est-ce que c'est
alors,
pas
y a
aussi...
Alors, il y a une raison à ça que vous évoquez, qui est très importante, c'est que vous dites qu'il y a sans doute eu des morts français. En fait, il y en a eu extrêmement peu. Extrêmement peu. C'est d'ailleurs une des raisons, et c'est une des grosses différences avec la guerre d'Algérie. C'est-à-dire que, pour des raisons politiques... et à cause du statut particulier du Cameroun, et pour des raisons médiatiques et pour des raisons économiques, il y a très peu de Français, de Blancs, hein, qui sont envoyés, de militaires qui sont envoyés sur place. Ils sont quelques milliers. On ne sait pas exactement, d'ailleurs, on n'a pas trouvé de chiffre récapitulatif, mais c'est de l'ordre de 3 à 4 000. Mais, par contre, il y a énormément d'Africains qui sont envoyés au Cameroun. Des Africains qui sont envoyés depuis la Côte d'Ivoire, depuis la Centrafrique, depuis le Congo, depuis etc. Et c'est des dizaines de milliers d'Africains qui sont envoyés sur place pour écraser d'autres Africains. Ça, c'est la première chose. Et aussi, pour des raisons d'économie, pour des raisons financières, l'armée française monte des milices, et là, c'est des dizaines de milliers de personnes, des milices... civils, mais en fait civilo-militaires, qui ont pour but de réprimer leurs propres frères. Hein, de façon. Donc on voit à la fois en Sénégal-Maritime et encore davantage à l'ouest Cameroun des milices qui s'appellent les gardes civiques ou dans le Mongo les corps francs, hein, on reprend là des typologies assez anciennes, pour lutter contre leurs frères. Et ça permet aussi de mobiliser la population, ça permet de leur dire, écoutez, vous n'avez pas le choix, vous êtes dans un camp ou dans l'autre. Si vous êtes dans l'autre camp, si vous êtes du côté des subversifs, vous allez mourir. Si vous êtes du côté de notre côté et que vous nous aidez à lutter contre les subversifs, on va vous payer un petit peu et on va vous protéger. Et du coup, c'est pour ça aussi que la guerre passe inaperçue. C'est-à-dire que, bon, tout ça, c'est une affaire de nègres, hein.
Mais en même temps, j'ai l'impression, et ça joue sur ce discours-là, 59, c'est l'autonomie du Cameroun, 60, c'est l'indépendance. C'est-à-dire qu'il y a aussi tout un travail d'une France libérale, de toute une publicité sur la création d'un gouvernement camerounais qui va prendre le relais de la répression française avec l'appui logistique, et il faut qu'on développe ces appuis logistiques. Et juste on s'écoute un petit peu justement ce qui se disait donc en 1959 au moment où on va passer à l'autonomie du Cameroun.
C'est que dans le même temps au Cameroun, sans tapage et sans publicité, la France donnait au monde une grande leçon de libéralisme. Une assemblée élue au collège unique et au suffrage universel tenait sa séance inaugurale. Elle devra décider en toute liberté des voies qui mèneront à l'émancipation du Cameroun.
la propagande va bon train, quoi. C'est-à-dire qu'en voilà, même temps où on massacre, on met en place une élite et on revient là à ce qui se passe. C'est-à-dire que c'est des gens qui sont formés en France et qui vont aller transmettre les lumières françaises au Cameroun.
Des hommes de paille, quoi.
Alors c'est ça, en fait. C'est exactement la logique de la sous-traitance. Hein. C'est comme une,
on rentre dans la France-Afrique, quoi.
Voilà, une multinationale aujourd'hui, elle fait de la sous-traitance, on respecte pas les droits dans la sous-traitance, et ben c'est pas grave, on dit, la multinationale veut dire « Ah non, c'est pas chez moi, c'est, oh, vous comprenez, mon sous-traitant, il n'a pas été... » Voilà, ben, c'est exactement ce qui va se passer au moment des indépendances, entre guillemets, france-africaines. Et on va mettre en place des dirigeants, on va mettre dans leur fauteuil des dirigeants qui vont prendre la suite, finalement, des administrateurs coloniaux, et on va leur dire « Maintenant, vous faites le sale boulot. » C'est vous qui allez faire le sale boulot, c'est vous qui allez réprimer. Donc c'est exactement, au Cameroun, c'est vous qui allez réprimer. Donc c'est exactement la même logique que les milices, etc. C'est-à-dire on va créer une armée camerounaise. L'armée camerounaise est la première armée que la France met sur pied dans ses anciennes colonies dès 1959, va susciter et va former des milices. Et en disant ben, tout ça, finalement, les Camerounais vont pouvoir faire ça très bien. Ils vont réprimer leurs frères. Et puis, en plus, en termes de propagande, ça va être merveilleux parce qu'on va pouvoir faire passer la guerre française pour une guerre civile. Ah, vous comprenez, les Bamilékés, ils sont très compliqués. Il faut bien quand même un peu les réprimer pour qu'ils rentrent dans le rang. Mais ah, nous, il y a de la sauvagerie, il y a des morts, il y a des... Ah, mais c'est pas de notre faute, nous, vous comprenez, les Africains. Quand ils... Et on a plein de gens, si vous voulez. Aujourd'hui, quand on a interrogé des gens, des militaires français en 2009 ou en 2010, pour leur expliquer comment ça se passait, ils nous expliquaient ça. On leur disait, vous savez, il y a eu beaucoup quand même de l'usage de la torture, etc. Ils n'y étaient absolument pas. Ils disaient, ah oui, effectivement, il y a eu beaucoup de torture. Moi-même, j'habitais à côté d'un camp, la nuit, j'entendais crier, etc., etc. Mais ils disent, et après, leur justification, c'est de dire, mais vous savez, les Africains, quand ils se battent entre eux, c'est jamais très joli à voir. Alors qu'en réalité, en haut des hiérarchies, les gens qui finalement donnaient les ordres et encadraient ces milices et encadraient ces tortionnaires et les avaient formés, etc., c'était des Français. Donc il y avait une forme de délégation de pouvoir qui permettait de se déresponsabiliser. Et c'est pour ça aujourd'hui qu'on a un Fillon qui dit tout ça, c'est de l'invention. Parce que lui-même n'est même pas au courant, en fait. Il ne sait même pas qu'il y a eu ce processus. Et on voit d'ailleurs les hiérarchies, comme on dit, se camerouniser. C'est-à-dire qu'elles se camerounisent par le bas. C'est ça qui est très intéressant, en fait. C'est qu'à partir de 1960, alors que toute l'administration était colonisée, était contrôlée par les Français, on voit petit à petit les postes les plus subalternes sont donnés à des Camerounais, puis les postes au-dessus, puis les postes au-dessus. Il y a une ascension sociale de toute une petite élite camerounaise. Mais en haut, on s'aperçoit qu'en haut, ceux qui dirigent, ça reste des Français. Et ce qui est très intéressant, c'est qu'en même temps qu'il y a une camerounisation des cadres, comme on dit, et ben en fait, on retire les attributions, on retire le pouvoir réel à ces gens-là. Et du coup, le pouvoir réel devient de plus en plus centralisé au niveau de la présidence, où là, il reste des Français. C'est ça qui est très intéressant. Mais... on donne une indépendance, mais on la vide de son contenu.
Voilà, mais face à cette indépendance, quand même, il y a toujours des gens dans les maquis. Cette armée de libération nationale camerounaise se met en place à ce moment-là. Comment ça se passe?
Alors, il y a eu différentes structures armées, mais celle qui a duré le plus longtemps, c'est effectivement une armée qui s'appelait Armée de Libération Nationale du Cameroun, avec K, A-L-N-K, qui a été mise en place en 1959, c'est-à-dire juste avant la fausse indépendance. Et c'était justement l'idée, c'était de dire, des UPCistes, c'était de dire on peut pas laisser la France imposer une fausse indépendance. Et du coup, la résistance armée a repris juste avant l'indépendance pour que, justement, les UPCistes voulaient empêcher cette fausse indépendance. Les maquis ont perduré.
Et oui, c'est ça. Et donc, voilà, parce qu'après, il y aura plus tard, je crois, juste après cette fausse indépendance, la reconquête, quoi, de l'Algérie. Donc, où on retrouve toujours pareil ces acteurs militaires qui étaient en œuvre en Algérie, en fait, les Bijar et compagnie, sont là, traînent dans le coin, on est toujours dans cette sale guerre un petit peu où on torture, où on assassine, on balance des gens du haut de chute d'eau. Voilà, on est toujours un petit peu dans cette logique Indochine-Algérie.
Alors, c'est ce qui est très intéressant, en fait, c'est que, je vous disais, jusqu'en 1960, le Cameroun est sous tutelle de l'ONU. C'est-à-dire qu'il y a un regard extérieur de l'ONU sur ce que fait la France. Mais ce qui est formidable avec l'indépendance, c'est que ça libère la France du regard de l'ONU. Ça libère pas tellement les Camerounais, finalement, mais ça libère les Français. Et qu'est-ce qui se passe? Après 1960, il y a une intensification de la guerre. Et c'est ça qui est assez stupéfiant, c'est qu'à partir de 1960, on voit apparaître l'aviation. On voit l'aviation française commence à bombarder les villages. Avant, on les brûlait comme ça. À partir de 1960, c'est l'aviation qui bombarde les villages. Pendant des mois et des mois, il y aura des dizaines de milliers de morts. Donc ça, c'est vraiment la preuve que l'indépendance, finalement, servait surtout les intérêts français. Et du coup, donc on a une petite élite camerounaise à qui on sous-traite la répression à la base. On a l'aviation française qui, de loin, de haut, lâche des bombes sur les villages. Et tout ça se passe très bien dans le silence le plus complet. Et on explique que, vous comprenez, c'est les Camerounais, les dirigeants camerounais qui maintiennent l'ordre chez eux et qui ont demandé l'assistance de la France pour que ça aille plus vite. Et c'est comme ça qu'on explique ça dans les journaux en France, les rares fois où on en parle.
D'accord.
Voilà, on a donné la souveraineté au Cameroun et donc ils font ce qu'ils veulent maintenant.
Mais cette guerre, elle tient jusqu'à 71. En tout cas, vous marquez une fin de 71. Comment est-ce qu'ils tiennent? Comment ça se passe? Et comment elle s'arrête? C'est-à-dire, c'est un écrasement total? Qu'est-ce qui marque la fin de cette guerre?
Alors, c'est très intéressant parce qu'effectivement, à partir de 1961-62, finalement, il n'y a presque aucune chance que les résistants camerounais de la LNK puissent l'emporter. C'est-à-dire qu'ils sont de moins en moins nombreux d'année en année. On voit qu'ils sont encore plusieurs dizaines de milliers, voire plusieurs milliers jusqu'en 1961-62. Ensuite, ça se compte simplement en milliers, puis en centaines, et comme ça, ça s'amenuise comme ça progressivement. Mais eux, ils restent toujours quelques centaines de personnes qui se battent. Il faut quand même se souvenir que quelques centaines de personnes, ça peut inquiéter un régime. À Cuba, et quand ils ont débarqué à Cuba en 1959, Castro et Che Guevara, ils sont 25. Donc là, ils sont encore des centaines un peu éparpillés comme ça dans l'ouest Cameroun à essayer de résister à l'administration. Bon, mais le but de l'administration néocoloniale, cette fois, donc après 1960, n'est plus tellement d'écraser physiquement ces petites bandes qui restent finalement relativement isolées et qui ont très peu de chances de l'emporter, mais plutôt de soumettre psychologiquement la population. Et donc là, on voit se déployer des énormes programmes de ce qu'on appelle de guerre psychologique ou d'action psychologique qui ont pour but non seulement d'éradiquer les gens physiquement, mais surtout d'éradiquer ce que les militaires français appellent le virus subversif du cerveau même des gens. Et c'est ça qui est assez stupéfiant, c'est-à-dire qu'on va effacer de la mémoire des Camerounais toutes les luttes passées, on va leur expliquer, leur marteler le crâne pour leur expliquer que les dirigeants camerounais, donc les Aïdjo, donc le président camerounais, est celui qui a réussi à arracher l'indépendance aux Français. On va expliquer que les administrateurs camerounais sont en fait des gens qui servent l'intérêt du peuple, etc., etc. Et à la fin, au bout de quelques années, les Camerounais eux-mêmes sont complètement lobotomisés. Et c'est assez stupéfiant, quoi. Et d'ailleurs, il y a des rapports toutes les semaines sur l'état psychologique des populations, etc. Et on essaie vraiment de retourner psychologiquement le cerveau des gens.
C'est les zones de pacification, en fait.
C'est une des modalités de la pacification. C'est-à-dire que toute cette guerre psychologique, elle a été entamée dès 1955 par Roland Pré. Très vite. C'est-à-dire Roland Pré, en 1955, il dit déjà que l'action psychologique ou la guerre psychologique, c'est la priorité. Mais en fait, c'est ce qui va rester le plus prégnant à la fin de la guerre, c'est-à-dire à la fin des années 60. Et jusqu'à aujourd'hui, en réalité, les Camerounais, le peuple camerounais, est complètement travaillé par toute cette guerre psychologique hyper intensive qui a été lancée au moment de l'indépendance, où on n'a pas arrêté de leur mentir, à leur expliquer que le parti unique, c'était ce qu'il y avait de mieux, que Aïdjo était quelqu'un de formidable, etc. Et il y a encore énormément de gens au Cameroun qui pensent que Aïdjo était pas si mal, quoi. Parce que justement, ils ont été éduqués là-dedans. À l'école, on leur faisait chanter des louanges à Aïdjo, et il y a une soumission au pouvoir qui est hallucinante, quoi. C'est-à-dire des gens qui s'enrichissent sur leur dos, et les gens disent ils sont formidables. D'ailleurs, il y a une expression qui est intéressante. Quelqu'un qui est riche au Cameroun, on dit que c'est quelqu'un de bien.
Ah oui. Ah oui.
C'est intéressant quand même. Et quand on explique au Camerounais, mais non, en fait, il n'est pas bien, on dit si, quand même, il est bien, parce que comme il est riche, il va pouvoir nous donner de l'argent, etc. Il y a des raisonnements comme ça qui sont en fait la conséquence directe de toute cette propagande. C'est-à-dire, les gens qui sont en haut, les gens qui sont puissants, c'est des gens bien, c'est vraiment. Voilà. C'est comme ça que l'indépendance a été vendue, en fait, au Camerounais.
D'accord. Et aujourd'hui, où est-ce qu'on en est, en fait?
Aujourd'hui, donc, on a eu. Les Camerounais ont la chance d'avoir eu un deuxième président, après Aïdjo. Non, donc, on a, y a eu que deux présidents hein, depuis 1960. Aïdjo, donc, de 1960 à 1982. Et il a démissionné, à la grande surprise, donc en 1982. Je fais une parenthèse, c'était l'année après l'arrivée de Mitterrand au pouvoir. Peut-être qu'il y a un lien. Et il a cédé son pouvoir à son premier ministre, hein, Paul Biya, qui était premier ministre du Cameroun à partir de 1975. Donc, Paul Biya est arrivé au pouvoir en 1982 sans jamais avoir été élu, hein, sans jamais avoir été s'être présenté à aucune élection. Et puis, depuis 1982, il est au pouvoir. Alors, il a réformé d'une certaine façon la dictature précédente, c'est-à-dire qu'il a été obligé d'accepter une forme de pluralisme politique avec différents partis politiques, différents journaux, alors que jusque-là, on était dans des configurations à parti unique, avec des journaux d'État, etc., etc. Mais en fait, le résultat est le même. C'est-à-dire on a toujours un président inamovible qui vient donc de se faire réélire là pour son sixième mandat avec plus de 70% des voix, et qui est là encore pour un septennat. Et les méthodes de guerre à basse intensité, on va dire, continuent à être appliquées tous les jours. L'exemple le plus flagrant, c'est en 2008. En février 2008, le président Biya réforme la Constitution parce qu'il n'avait pas le droit de se représenter normalement. Selon la Constitution, il ne pouvait pas se représenter pour un nouveau mandat en 2011. Donc. Les gens sortent dans la rue, enfin des jeunes en tout cas révoltés sortent dans la rue et Biya envoie son armée leur tirer dessus, hein, tout simplement. Il y a eu plus de 100 morts. On n'en a pas du tout entendu parler en France, mais ça reste quand même des Français qui ont formé les forces de répression camerounaises. C'est-à-dire, c'est quand même les impôts des Français hein, qui payent les formateurs français qui forment l'armée camerounaise, la gendarmerie camerounaise, la police camerounaise à tirer sur des civils quand ils manifestent, et quand ils manifestent légitimement pour pouvoir un jour changer de président. Vous voyez, la situation, c'est celle-là.
Hein. C'est la coopération France-africaine.
Voilà. Et alors, donc, là, on a eu des élections le 9 octobre, donc là. Hein. Donc, Biya vient de s'auto-élire, d'une certaine façon, puisque les élections ont été complètement truquées. Tous les rapports que je reçois actuellement, que ce soit d'Amnesty International ou de plein d'organismes de surveillance, montrent que les élections sont truquées. Plein de journalistes me disent, j'ai vu des multiples votes. 70% des gens, des Camerounais, n'ont pas pu s'inscrire sur les listes électorales. Enfin, bon, on est dans une situation ubuesque. Les États-Unis ont expliqué, officiellement, hein, l'ambassade des États-Unis a expliqué que c'était scandaleux, qu'il y avait des irrégularités flagrantes partout, etc. Et on a Alain Juppé, ministre des Affaires étrangères française, qui dit que les élections se sont passées, et je cite, « dans des conditions acceptables ». Donc vous voyez, tout ce processus de la France, finalement, qui cautionne un système complètement inique, qui se fait complètement au détriment de la souveraineté populaire camerounaise et des intérêts des populations camerounaises, continue à exister. Il a pris d'autres formes, finalement. On fait des élections, maintenant, on a un masque, une illusion démocratique, mais en réalité, la situation est la même. Hein,
et puis, ce qui semble aussi, on va aller sur la conclusion là, mais ce qui semble aussi marquer vraiment un processus exemplaire pour la France-Afrique, c'est que Paul Biya, il a été formé en France, et vous faites dans le livre un parallèle comme ça entre Paul Biya et Mongo Betty, où on voit en France une formation d'une élite camerounaise qui est gagnée aux valeurs de la France, quoi, aux valeurs de la France pour faire perdurer la colonisation, quoi.
Oui, mais c'est ça. Mais alors, justement, Mongo Betty, donc c'est un romancier camerounais qui est mort il y a 10 ans, qui était un grand résistant, finalement un résistant de plume, mais un résistant extrêmement puissant, extrêmement habile, extrêmement intelligent. Et c'est quelqu'un qui... C'est le premier, d'ailleurs, qui a écrit un livre sur cette guerre au Cameroun en 1972. C'est un livre qu'il faut lire, qui s'appelle « Main basse sur le Cameroun ». C'est exceptionnel. Il n'a pas toutes les archives qu'on nous on a pu consulter, parce que c'est à l'époque, tout est fermé. Mais il devine, il lit entre les lignes dans la presse, etc. Il comprend ce qui est en train de se passer. Il était en exil, mais il comprend ce qui s'est passé dans les 10 dernières années, dans les 20 dernières années au Cameroun.
Livre qui a été interdit pendant 5 ans, voilà, de 72 à 77.
Et son livre est interdit quelques jours après la parution, en 1972, par Pompidou. Et donc, voilà, on fait régner le silence. On a fait régner le silence. Et encore aujourd'hui, c'est notre livre, on demande des réactions, on écrit des tribunes dans les journaux, et il n'y a aucune réaction. Quoi. C'est comme si, le silence peut gagner face à, pourtant, des massacres et l'imposition d'un régime dictatorial et injuste. Quoi. C'est... Moi, je suis allé, hein, personnellement, en février, je suis allé au Cameroun pour essayer de faire connaître le livre, discuter avec les gens, le présenter aux témoins qu'on avait interrogés, etc. Je suis passé à l'ambassade de France parce que j'ai essayé de faire pression en disant il faudrait que vous organisiez une conférence sur ce livre, en tout cas sur ces événements, etc. Et les types, ils ont commencé à m'expliquer que c'était des inventions. Je leur ai dit, mais attendez, le livre, il est sur la table, hein, lisez-le.
Voilà.
Un aveuglement, mais... impensable, quoi. Vraiment très impressionnant. Mais ça viendra, je veux dire, au bout d'un moment, ils seront bien obligés de reconnaître.
Juste parce qu'on n'en a pas parlé, qu'est-ce qui fait que la France s'est acharnée comme ça à avoir sous sa botte le Cameroun?
Alors, ça, c'est à cause du statut particulier du Cameroun. Hein. C'est comme le Cameroun n'était pas une colonie, et que la France devait l'amener normalement à l'indépendance, les autorités françaises avaient peur que le Cameroun devienne un exemple pour toutes les autres colonies. C'est-à-dire, si on donne l'indépendance telle qu'on a signée, telle qu'on doit le faire normalement au Cameroun, tous les autres pays autour vont demander l'indépendance.
D'accord.
Donc ça, c'était un peu la peur de l'effet domino. Et puis aussi, tout simplement, parce qu'il y avait des intérêts géostratégiques et économiques extrêmement puissants. Et rien que si on prend juste l'exemple du port de Douala, c'est un port extrêmement important géostratégiquement. Il y a du pétrole en face, c'est comme ça qu'on peut faire sortir et rentrer toutes les marchandises à l'intérieur de l'Afrique centrale, avec le port de Pointe-Noire, c'est les deux ports importants d'Afrique centrale, etc. C'est des intérêts énormes.
D'accord.
Et d'ailleurs, petite parenthèse, le port de Douala aujourd'hui est contrôlé par Bolloré. Donc là encore, on voit des continuités. Bolloré, pas non plus. Hein. Enfin, voilà, voilà un peu dans quelle situation on est. Alors, c'est pas pour dire que tout reste pareil, mais il y a quand même des continuités. Et quand, et c'est peut-être pour conclure, quand on nous dit que la France-Afrique s'est terminée, etc., non, la France-Afrique, ça a muté, mais elle perdure.
C'est clair. En tout cas, on va renvoyer sur le livre, hein, et sur le site, parce qu'il y a encore plein de choses à en dire, plein d'informations, et puis vraiment comme une quintessence de la mise en place de la France-Afrique avec ses deux bras idéologiques et militaires.
Rappelle le titre du livre, hein, et où est-ce qu'on peut le trouver, enfin les éditions en tout cas.
Moi, ouais. Donc le livre c'est Cameroun, avec K, donc Cameroun, et ça a été publié aux éditions de La Découverte cette année. Donc il y a le sous-titre, Une guerre cachée aux origines de la France-Afrique.
D'accord.
Voilà, on raconte tout ça. Mais merci beaucoup à vous. Hein.
Merci à toi.
On se quitte avec justement ce qui s'est dit il n'y a pas si longtemps par notre cher président de la République à Dakar.
Merci beaucoup en tout cas.
Merci, bon après-midi, au revoir.
Ouais, toi aussi.
Que la part d'Europe qui est en vous est le fruit d'un grand péché d'orgueil de l'Occident, mais que cette part d'Europe en vous n'est pas indigne, car elle est l'appel de la liberté, de l'émancipation, de la justice et de l'égalité entre les femmes et les hommes, car elle est l'appel à la raison et à la conscience universelle. Le drame de l'Afrique, c'est que l'homme africain n'est pas assez entré dans l'histoire.
Et voilà, le Front du lundi, ça s'arrête, c'est fini. Oui, l'Afrique n'est pas rentrée dans l'histoire. Surtout,
l'homme africain,
on ne veut pas que l'Afrique rentre dans l'histoire. Ouais. Et l'histoire de France passe par l'Afrique.
Ben, disons que l'histoire, elle est bien gardée, quoi. Donc, il y a des hommes en armes devant. Donc, l'homme africain, il va falloir qu'il s'y attelle avant de pouvoir y rentrer. On l'a vu avec le Cameroun. Voilà, c'est à lire en tout cas. Hein, je pense que c'était vraiment un agréable moment de découverte. Hein.
Voilà, c'était le Front du lundi. C'est fini. Il est 2h, vous êtes sur Canal Sud, à
4h30.
Back to Black.
Pas de camion. Pas de camion. Holiday, voilà.
Far back, easy time to crawl. Play ethnic jazz to parade your smell. this rapture of you. Well, you're the kind of guy.